J'avais l'impression d'être un fou, en fait. J'avais l'impression d'être fou parce que tu vois le regard des gens autour de toi changer et tu sais pas quoi faire. Tu sais plus comment faire. Et Myriam m'a fait beaucoup de bien dans ce sens-là parce qu'elle m'a redonné de la force. Elle m'a appris, en fait, à assumer ma dépression, à pas. Parce que c'est, comme je disais, c'est quelque chose de tabou. Donc, le fait d'en parler avec une personne qui te donne des réponses, c'était beaucoup plus facile.
Bonjour, je suis Guillaume Degvive, un grand fan de sport et un entrepreneur. J'ai cofondé Mocha.care, une solution de santé mentale au travail, et en me lançant dans cette aventure, j'ai rapidement réalisé que la santé mentale était encore un sujet tabou, souvent associé à la faiblesse. Chez Mocha.care, nous sommes convaincus du contraire. Dans ce podcast Les secrets du mental, nous allons à la rencontre d'athlètes de haut niveau, des champions et des championnes, pour montrer qu'une bonne santé mentale est nécessaire à la performance. J'admire la flamme qui les anime pour aller courir, nager et s'entraîner tous les matins. J'admire leur pugnacité, leur détermination pour aller décrocher des médailles et battre des records. J'admire leur résilience aussi, pour se remobiliser en plein match, rebondir après une défaite ou continuer leur chemin malgré les accidents de la vie. Je me suis toujours demandé d'où leur vient cette force, comment ils la nourrissent dans le temps. J'espère que leurs parcours vous inspireront, vous fourniront des clés pour vous sentir bien au quotidien, ou tout simplement, vous permettront de rêver un peu. Bonne écoute. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Écoute, je suis vraiment ravi de t'avoir sur ce podcast, Les secrets du mental. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu comptabilises pas moins de 17 ans de carrière au plus haut niveau dans le rugby. Je pense que tu es une des figures du rugby français. Dès que j'ai parlé de toi, j'ai dit on allait recevoir Mathieu Bassereau dans le podcast. J'ai vu un grand sourire aux lèvres des personnes à qui j'en parlais, qui se souvenaient de pas mal de tes matchs, de ton palmarès, notamment trois fois vainqueur de la Coupe d'Europe avec le RC Toulon en 2013, 2014, 2015, champion de France avec ce même club, joueur de l'équipe de France de 2009 à 2019, une belle période, et vainqueur du tournoi Destination en 2010. Donc, une belle carrière.
Ouais, maintenant avec, on va dire avec le recul, ça va faire 6 mois maintenant, un peu plus de 6 mois que j'ai arrêté. C'est vrai que quand je regarde tout ça, c'est de très 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 bons souvenirs, des moments un peu plus compliqués, mais en tout cas ça a forgé la personne que je suis maintenant, donc très content de mon parcours.
Et ouais, donc aujourd'hui tu as arrêté ta carrière en tant que sportif de haut niveau, mais tu continues, tu es notamment team manager au RC Toulon, tu as également un show, le Basta Show, pour commenter le rugby. J'ai commencé à te présenter avec ton palmarès, avec les trois activités que tu fais. Mais est-ce que je peux te laisser continuer ta présentation et te présenter tel que toi, tu te présentes en général ?
Eh bien, Mathieu, né à Créteil dans le 94, ouais. En 1988. Je n'ai pas vraiment grandi parce que mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, donc à 3 ans. Donc j'ai grandi dans l'Essonne, à Quincy sous Sénart. Donc voilà, je ne sais pas si les gens connaissent. J'ai commencé le rugby à 5 ans, 5 ans et demi, à Créteil. J'y ai fait 10 ans. Après, je suis rentré en sport-études au lycée La Canale, où j'ai fait 1 an. Et après, c'est 1 an, j'ai été surclassé pour faire le Pôle France à Marcoussis, le Pôle France au rugby. Maintenant, ça n'existe plus, mais c'est ce qui était un peu considéré comme le Clairefontaine ou l'INSEP du rugby. J'y ai passé 2 ans. Entre-temps, j'ai rejoint Massy. Et après ces 2 années, j'ai signé mon premier contrat professionnel au Stade Français. Et après, bon, Stade Français, Toulon, une petite pige à New York. Raconté comme ça, on a l'impression que c'était rapide, mais ça a duré 17 ans. Voilà.
Ouais, et c'est amusant parce que tu as insisté sur le début, finalement, c'est un peu la rampe de lancement. Puis après, une fois que c'est lancé, ça s'est accéléré.
C'est toujours très important pour moi de parler de d'où je viens, de mes racines, de là où j'ai grandi, là où j'ai appris le rugby, parce que le rugby, ça a été. C'est encore une grosse partie de ma vie, donc j'en suis très fier et j'adore en discuter.
Et alors ce podcast, c'est un podcast un peu particulier, on parle de santé mentale des athlètes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui?
Parce que je pense que c'est très important. On parle énormément de performance physique, technique dans le sport, pas que dans le rugby, et même si on commence à toucher du doigt le sujet, ça reste quand même un sujet tabou. Et moi, mon chemin, j'ai connu la dépression, et si je peux, on va dire, aider les prochaines générations, en fait, pour moi, c'est un devoir de transmission. J'ai vécu pas mal de choses. J'ai peut-être 9 vies en 17 ans de carrière. Donc, si ça peut aider un jeune rugbyman ou un jeune sportif ou tout simplement une personne, une jeune personne, c'est super.
Bah, merci beaucoup, merci de prendre la parole.
De rien.
Alors on va revenir sur ces différents éléments, parce que c'est 9 filles, j'ai hâte d'en savoir plus. Peut-être un sujet que je voulais évoquer avec toi, c'est est-ce que toi tu as vu au cours de tes 17 ans de carrière, le regard sur la santé mentale évoluer dans le monde du rugby? Est-ce qu'il y a un peu eu une évolution ou c'était à la marge?
Oui, il y a une évolution. Au tout début, on avait un coup de moins bien. On te mettait une tape derrière le dos et on disait ça va aller. Mais il n'y avait pas vraiment un travail qui était fait comme maintenant. Il n'y avait pas forcément de psy, de préparateur mental. Maintenant, les moyens qui sont mis à disposition des joueurs, c'était un peu à l'ancienne, quoi. Pour te forger un mental, tu te faisais un peu tout seul. Il fallait serrer les dents le plus possible. Parce que la vie d'un sportif de haut niveau, d'un jeune sportif de haut niveau, c'est très dur. C'est très dur parce que pour la plupart, on part très jeune de chez nous. Ouais. Moi, je suis parti, j'avais 15 ans. Donc, du jour au lendemain, tu te retrouves dans un endroit, dans un internat, avec des personnes que tu connais pas. Moi, je sais que ça. Déjà, il y a eu un premier changement. C'est là où j'ai commencé à avoir des troubles du sommeil, où j'ai commencé un peu à devenir insomniaque parce que j'étais pas chez moi, je me sentais pas forcément à l'aise là. Et tu dois faire bonne figure.
Ouais.
Tu dois faire bonne figure la journée parce que on te rabâche même tous les jours que c'est une chance d'être ici. Donc quand tu vas voir un surveillant ou un prof ou autre, ils te disent mais pourquoi tu te plains, enfin. Il y en a qui rêveraient, c'est cette phrase qu'on sort souvent, c'est il y en a qui rêveraient d'être à ta place. Donc tu serres les dents, et quand t'es un gamin de 15 ans, c'est pas facile.
Ouais, t'apprends un truc qui m'a pas de plainte, mais aussi à pas vivre tes émotions et donc finalement à garder un
exactement
peu trop pour toi.
En fait, tu c'est en plus c'est là où tu te construis. C'est là où tu te construis et en fait indirectement on t'apprend à intérioriser tes émotions. Oui. Alors que justement, le sport, c'est extérioriser ses émotions, c'est des connexions avec des coéquipiers, avec le public, avec ton entraîneur. Oui. Et là, on t'apprend en fait à garder les choses pour toi et à te concentrer sur ce qu'on te demande, c'est-à-dire bien t'entraîner et être performant en match.
Et donc finalement, toi, un peu tout le monde t'attend au tournant à ce moment-là. J'imagine qu'il y a un peu de compétition parce que t'as 15 ans, tu t'es déjà repéré, mais ta place n'est pas du tout acquise. J'imagine.
C'est là où on commence un peu à découvrir la pression. Ouais. Quand on commence à rentrer dans la filière, on va dire FFR, c'est là qu'on commence à. Ouais. Parce que juste avant, c'est des tournois, des plateaux avec différents clubs et on s'amuse. Ouais. Après, on rentre dans la filière FFR, donc il commence à y avoir des sélections. Et les sélections, c'est à l'époque, il y avait des barèmes, donc on était notés. Comme à l'école. Donc déjà, ça met un peu de pression. Et je me souviens qu'il y avait... c'était 12 joueurs moyens, 14 bons joueurs, 16-17 possibles futurs sélectionnés en équipe de France de jeunes, et 18, là, il n'y avait pas photo. Donc déjà... Ça commence. Ouais. Forcément, tu vas avoir la meilleure note. Tu te mets un peu la pression quand tu sais qu'il y a des rassemblements et qu'il y a des CTR, des conseillers techniques qui viennent justement repérer les jeunes talents pour composer des équipes de France de jeunes. Et t'es pas forcément préparé à ça. T'es sur le terrain, sois bon, parce que si t'es pas bon, tant pis pour toi. Un autre truc aussi, c'est que quand on est en pôle espoir, on n'a pas le droit de redoubler.
Okay.
C'est-à-dire que si on redouble, donc on prend une année de retard, et ça, c'est pas possible dans le processus à ce moment-là. Donc, si tu redoublais, le sport étude était fini pour toi. Donc, ça aussi, ça rajoute une autre pression, parce que tu as la pression sportive et tu as aussi la pression scolaire.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que moi, je me souviens à la Canal, j'ai vu 3-4 joueurs de ma promotion arrêter. Avec le recul, je me dis que c'était quand même beaucoup de pression sur les épaules de jeunes joueurs sans y être préparé. Après, moi, je ne sais pas si j'étais plus armé que les autres. Ouais. Ça vient peut-être aussi de mon éducation. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui. On m'a appris à jamais lâcher, à toujours me battre. Donc. Même s'il y a eu des moments compliqués à l'internat, je m'accrochais. Je m'accrochais et aussi, je m'étais fixé un but.
C'était quoi ton but ?
À partir du moment où j'ai reçu le dossier pour rentrer en sport-études, j'ai vu déjà le coût financier que c'était pour mes parents. Et mes parents étaient à fond derrière moi, donc je me suis dit, il est hors de question que j'échoue. Voilà, c'était pas possible, c'était une question par de l'amour, du respect envers mes parents. Donc à partir de là, je me suis dit, voilà, je me souviens de la première réunion à l'internat, dans la chambre 1. Dans la chambre 1, parce que c'est une des plus grandes chambres, il y a tous les anciens.
Ouais.
Et donc les anciens, ils arrivent, ils se mettent en hauteur.
Okay.
Ils se mettent en hauteur, donc ils se mettent sur, sur les tables, sur les des étagères. Et nous, les nouveaux, on se met assis par terre. Assis par terre, et là, on doit se présenter chacun notre tour. Tout le monde se présente et te demande nom, prénom, club et objectif. Pourquoi tu es là? Et moi, je me souviens que les mecs de ma promo étaient très « oui, moi, ben, je suis là pour essayer d'augmenter mon niveau rugby. » Et en fait, je me suis levé, j'ai Mathieu Bastaro, Rugby Club Massy-Essonne. Moi, je suis ici pour devenir pro. Et je me souviens, ils m'avaient tous regardé l'air de dire «
Il se prend sérieux, lui. »
Ouais, ouais. Et à partir de ce moment-là, où j'ai dit ça, pour moi, c'était hors de question de faire machine arrière, quoi. Parce que je savais très bien qu'ils allaient me tomber dessus après.
Ouais, c'est sûr. En t'attendais d'autant plus au tournant.
Voilà.
Tu t'es un peu rajouté de la pression, mais
c'était une façon aussi d'annoncer la couleur.
Ouais.
D'annoncer la couleur que j'avais des objectifs et que j'étais là pour les atteindre.
Et du coup, tu les as atteints, t'es devenu pro très jeune, t'as été repéré, t'es arrivé en équipe de France, et donc là, t'es sélectionné. Il y a ce moment où, très jeune, t'as une difficulté qui te tombe dessus, cette histoire en Nouvelle-Zélande qui a fait un peu une espèce de brouhaha médiatique assez important, où tout le monde t'est un peu tombé dessus. Est-ce que tu serais prêt pour le repartager un peu l'histoire?
Ouais, une troisième mi-temps un peu trop arrosée. Moi, pas sérieux. Et je trébuche, je suis en table de nuit. Et donc, je vais voir le médecin, il me recoue. Et le lendemain, il me demande ce qui s'est passé. Moi, un peu, pris un peu la main dans le sac. Je dis, je me suis pris la tête avec des mecs. Il y a eu une bagarre. Sauf que j'ai pas pris mesure de mon mensonge. Sauf que 2 ans après, il y avait une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Et donc forcément il fallait qu'il montre une belle image, que le pays était sécurisé. Donc à partir de là, enquête de police, enfin tout s'est emballé et entre guillemets mon mensonge m'a explosé à la face. Mais au-delà de ça, c'est tout ce que ça a pu engendrer après. C'est tout ce que ça a pu engendrer après. Après honnêtement, quand je reviens là-dessus, je pense que avant même de partir en tournée, j'étais pas bien mentalement.
Okay.
J'étais pas bien mentalement parce que c'était mes premières saisons en top 14. Je venais de découvrir l'équipe de France. Je pense que j'étais épuisé. Je me sentais épuisé, fatigué. Et là, c'est pareil, quoi. C'est pareil parce que t'as la chance d'être en équipe de France, donc pourquoi tu vas te plaindre?
Ouais.
Mais après, c'est vrai que le retour en France et les mois qui ont suivi, ça a été dur, ça a été un peu de l'acharnement. J'avais l'impression que c'était une espèce de chasse à l'homme. C'était difficile à vivre parce que ça a commencé à toucher mon entourage. On s'est mis à Créteil, on appelait chez mon père, on venait sonner chez ma mère, on a fait des reportages dans le hall de mon bâtiment, en disant que c'était un taudis, que je voulais... Ouais. Enfin, on a voulu faire de moi un personnage pour un peu étayer le fait, s'il a fait ça, c'est parce qu'il est comme ça. Ouais. Parce que mais à part ces cartes de conduite, j'avais jamais eu aucun problème en sélection de jeunes, en équipe de France, à l'école même, j'ai jamais eu aucun problème. Et pour une certaine presse, ils avaient besoin de raconter quelque chose.
Mais ça, en vrai, c'est vrai, mais ça fait vendre. Donc,
ils avaient besoin de raconter quelque chose. Donc, quoi de mieux que de vendre un truc avec le petit banlieusard, mauvais garçon. Donc, c'était du pain béni pour eux. Et moi, à ce moment-là, je pense que ma seule erreur, c'est de ne pas avoir communiqué avec les gens autour de moi et peut-être rapidement dans la presse. C'est-à-dire que, après, je pense qu'aussi, je n'étais pas du tout en état de pouvoir parler. Et en fait, j'ai vu le retournement de veste de journalistes que je pouvais côtoyer au Stade français, ou en équipe de France, qui écrivaient des choses fausses et ils le savaient. C'est là que j'ai mis un peu ma carapace. J'ai coupé les ponts avec beaucoup de personnes. Que c'est toi avec mes coéquipiers, ma famille aussi, une partie de ma famille, même ouais. les personnes que je coûte, enfin, que je pouvais côtoyer, qui n'étaient pas forcément des amis, mais des connaissances. Là, j'avais l'impression d'être vraiment, vraiment seul.
Ouais.
Et bizarrement, je voulais être seul. Parce que je me suis dit, j'ai fait ces conneries, il n'y a personne qui a à en souffrir. Parce que j'avais l'impression que.
Mais là,
j'étais vraiment...
tes parents, ton entourage, allait presque un peu payer certaines conséquences.
Oui, parce que forcément, ils voulaient m'aider, moi je les repoussais. Donc okay. C'est pas forcément facile. Et même mes amis proches, je les repoussais parce que j'avais l'impression d'être un pestiféré, que si ils traînaient avec moi, on allait leur prendre la tête à eux. Donc ça a été compliqué, très compliqué. J'ai mis du temps à m'en relever et il y a encore des conséquences à ça. C'est-à-dire que il y a certains, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez rancunier, c'est-à-dire que j'oublie pas et je sais qu'il y a certains médias, certains même journalistes plus précisément, à qui je n'adresse pas la parole ou je dis même pas bonjour. Voilà, parce que qui s'attaque à moi, ça va, mais qui s'attaque à ma famille, là c'était un peu trop.
Je comprends complètement. Et t'as dit en introduction avoir traversé une dépression. Cette dépression était liée à cet épisode ?
Non, je pense que c'est le fait d'avoir serré les dents toute ma jeunesse, tout mon début de carrière, enfin tout mon apprentissage, toute ma formation. Parce que comme on disait, j'étais assez précoce, donc on attendait de moi beaucoup de choses très tôt. Mmh. Je me plaignais jamais. Et je pense que c'est une accumulation qui a fait qu'au bout d'un moment, un trop-plein qui a fait que j'ai explosé.
Ouais, que toutes ces émotions finalement non vécues, non
extériorisées. Voilà, tout ce qui a été un peu refoulé, c'est ça qui a fait que j'ai explosé.
Et merci en tout cas de prendre la parole sur ce sujet de la dépression, parce que moi j'ai demandé au psychologue de Moka un petit peu quelques informations sur la dépression, qu'est-ce que c'est. Une chose à savoir, c'est que c'est une vraie maladie, c'est le terme à employer, et que d'après l'OMS, il y a une personne sur cinq qui est atteinte d'une dépression au cours de sa vie. Donc en fait, ça veut dire qu'on est tous concernés, soit directement, soit indirectement par son entourage proche, par la dépression. Donc c'est pas quelque chose de lointain, c'est quelque chose qui je pense, nous concerne tous. Donc déjà, merci de prendre la parole, Mathieu, aujourd'hui. Je pense que tes mots pèsent, et c'est important d'avoir quelqu'un qui, comme toi, incarne la performance et montre, en fait, on est tous concernés, y compris les champions. Donc déjà, merci pour ça.
De rien, de rien.
Et est-ce que, tu nous as raconté un peu l'engrenage avec ce petit mensonge, finalement, de une soirée trop arrosée, tu mens à un médecin et mensonge, je pense qu'on a tous fait des petits mensonges dans sa vie, mais là, ça a pris des proportions démesurées. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'engrenage de comment est-ce que tu en es arrivé à traverser une dépression et comment ça s'est... L'engrenage a commencé un peu à nous en parler avec ses émotions accumulées, mais ensuite, comment ça s'est traduit ? Comment est-ce que toi, tu as traversé cette dépression ?
Ça a été long et je pense que même maintenant, j'en souffre encore. Je pense que même maintenant, j'en souffre encore. Alors maintenant, j'arrive à la gérer. En fait, je pense que quand on a une dépression, on l'a pas juste une seule fois. En fait, je pense que c'est épisodiquement. On a des hauts, des bas. Un coup, on est super bien. Un coup, ça va pas. J'ai appris à mettre des mots dessus avec Myriam Selmi, qui m'a beaucoup, aidé.
Myriam Selmi, qui est une psychologue des champions, quoi.
De l'INSEP, qui a travaillé avec beaucoup d'athlètes, dont Teddy Riner, et qui était aussi au Stade Français. Qui s'occupait du centre de formation.
On a eu Isora Atibus en escrime sur ce podcast qui nous a justement raconté son accompagnement avec Myriam Selmi.
Moi ça m'a fait beaucoup de bien parce que Myriam m'a aidé à mettre des mots simples. Parce que j'avais l'impression d'être un fou en fait.
D'accord.
J'avais l'impression d'être fou parce que les gens, tu vois le regard des gens autour de toi changer et tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire, tu sais plus comment faire. Je pense que tu réapprends un peu la vie sociale. Quoi. Et Myriam m'a fait beaucoup de bien dans ce sens-là, parce qu'elle m'a redonné de la force. Et elle m'a appris en fait à assumer. À assumer ma dépression, à pas. Parce que c'est, comme je disais, c'était quelque chose de tabou. À mon époque, c'était comme quelque chose d'assez tabou, dont on ne parlait pas, donc on mettait ça sous le tapis ou au fond d'un placard. Donc. Le fait de pouvoir d'en parler avec une personne qui te donne des réponses, pas juste qui te dit deux, trois trucs, non, là, me donner des réponses, c'était beaucoup plus facile. Après, moi, je sais que tout au long de ma carrière, j'ai eu des épisodes un peu dépressifs. Moi, ça se traduisait par, par exemple, moi, c'était la prise de poids. Moi, je sais que bah, quand j'étais pas bien, j'avais tendance à prendre du poids. J'étais un peu boulimique. C'est-à-dire que j'angoissais, je stressais, donc je mangeais. Après, je culpabilisais, donc je me faisais vomir. Ça a été ça pendant longtemps. Parce que toute ma carrière, on m'a toujours dit que j'avais un physique atypique. Et au final, on a toujours fait très attention à mon poids depuis mon jeune âge. Donc, les lundis, quand il y avait pesé, les dimanches, je ne dormais pas beaucoup. Je me levais pour aller faire du vélo, pour aller courir à 3-4 heures du matin. Parce que je savais très bien que si j'avais 100 grammes, 200 grammes de trop, ça allait prendre une proportion et ça allait moi. Et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas décevoir, moi j'ai l'impression de décevoir la terre entière. Donc c'était de la pression. Après, je dis pas que je faisais tout bien, mais ça fait partie des choses aussi qui n'ont pas été faciles à gérer.
Et t'as dit, la dépression, c'est quelque chose qu'on peut un peu traîner ou qui va pas forcément partir d'un coup. On a eu aussi Jérémy Flores en surf qui est venu, qui a partagé sa dépression, qui lui nous parlait d'un petit nuage noir qui parfois le suivait, qui parfois l'assombrissait, puis parfois il partait, puis il revenait. La question que j'avais, c'est comment est-ce que tu as réussi à sortir de ce cercle vicieux que tu racontes, à sortir de cette dépression? Qu'est-ce qui t'a... Il y a l'accompagnement avec Marianne.
L'accompagnement et aussi de je pense que c'est aussi les rencontres que j'ai pu faire. Ouais. Et même le sport m'a beaucoup aidé parce que j'ai trouvé aussi une façon, même si c'était pas simple, mais c'était un défouloir, c'était un peu une thérapie. À chaque fois que j'allais à l'entraînement ou à un match, au début c'était ça va être dur. Mais au final, c'était un peu pour moi une thérapie.
C'est vrai que j'ai re-regardé des vidéos de toi avec tes plus gros plaquages. Il y en a des jolis, hein, c'est sûr. On va le dire, c'est assez impressionnant. Je me suis demandé si dans tes plaquages, qui sont quand même hyper engagés, on va dire, on pourrait même dire violents, sincèrement, est-ce qu'il n'y avait pas une manière... Je me suis demandé si tu combattais pas ta dépression aussi quelque part ou qu'il n'y avait pas quelque chose toi, que tu allais...
C'est une bonne question. Non, je ne pense pas, peut-être. Mais non, je ne pense pas. Okay. C'était un peu mon style de jeu. C'était peut-être pour moi une façon de me démarquer. Ouais. Je sais pas. Ouais, je pense que c'était peut-être une façon de montrer que voilà, sur le terrain, c'est moi qui commandais. C'est dans le sens où quand on est sur le terrain, même s'il y a les consignes des entraîneurs, le public, mais c'est toi qui es maître de ton bateau. Ouais. Et c'est peut-être une façon
t'es là, tu fais acte de présence.
Exactement. Après, c'est sûr qu'il y a eu des matchs où je pense que le match où je reviens justement après la Nouvelle-Zélande, c'est le premier match du tournoi 2010, ou ouais. même tout le tournoi 2010, là j'avais la haine. C'est-à-dire que j'étais plus que revanchard. Voilà, je pense qu'on peut le voir dans mes yeux. Je pense que quand je marque les deux essais, je me souviens, le premier essai, j'avais pas grand chose à faire, mais je marque, je sais que je me relève, je toise tout le public. Bon, c'était en Écosse, donc ils s'en foutaient. Mais je me souviens, et c'était pour moi une façon de prendre une revanche sur toutes les personnes qui ont pu me blesser moi ou mes proches. Mais oui, il y a eu des matchs où c'était une façon de me défouler. Désolé à mes adversaires.
Ça fait partie du jeu. Hein. C'est vraiment le concept. Et quel conseil tu voudrais partager, tu vois, aux personnes qui traversent une dépression? Quel conseil tu aurais envie de leur partager? Ou quelqu'un qui voit un de leurs proches qui traverse une dépression, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire?
Déjà, il ne faut pas la brusquer. Parce qu'une personne en dépression, en fait, elle ne parlera pas. Elle saura déjà. On est des très bons acteurs. C'est-à-dire qu'on est très bon pour être justement très souriant et cacher ce qui ne va pas. Mais il faut garder le contact. Il faut garder le contact. Et après, cette personne-là viendra parler d'elle-même. Mais il faut garder le contact. Il faut montrer simplement qu'on l'aime et qu'on est prêt à l'écouter. Qu'importe ce qu'elle est à vous dire. Après, je pense que maintenant, c'est même les personnes atteintes de dépression, elles sont beaucoup plus ouvertes. Parce que maintenant, on en parle plus sérieusement et on est moins pointé du doigt comme un fou, parce que bon, c'est un peu l'impression que j'avais avant, donc
Et je pense qu'il y a aussi ce réflexe que tu as eu qui était très bon de se faire accompagner.
Oui, il y a eu ça. Et après, je pense que les nombreux témoignages de sportifs, même de personnalités, ont beaucoup aidé. Parce que, mine de rien, on est regardés, est beaucoup regardés par des jeunes adolescents, des personnes qui veulent être à notre place. Et eux, ils nous voient que le samedi sur le terrain, en train de performer.
Ouais.
Ils voient pas ce qui se passe la semaine, les heures d'entraînement.
Ouais, le dimanche à 3h du matin.
Exactement, ils voient pas quand c'est difficile. Donc, de pouvoir en parler librement, je pense que c'est bien pour la personne et c'est encore mieux pour les jeunes. Je dirais pas que c'est un entraînement, mais c'est dire attention. C'est-à-dire que il y a des très bons côtés à être sportif de haut niveau. On voyage, on vit de sa passion, on joue dans des grands stades. Enfin, c'est super. Mais il y a aussi le revers de la médaille qui est pas facile.
Alors, pour revenir justement sur ces très bons moments, tu as gagné pas mal de titres, tu as un très beau palmarès, on en a parlé au tout début. À un moment, tu as pas mal enchaîné les victoires, notamment donc avec ton club de cœur à Toulon. Pour toi, c'est quoi un peu les clés de la réussite à ce moment-là? Est-ce que c'est un alignement des planètes ou est-ce que toi-même, tu t'es senti différent pendant toutes ces saisons-là où tu enchaînais les victoires?
J'ai eu la chance à ce moment-là de faire partie d'une génération assez exceptionnelle avec des très 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 grands joueurs. Mmh. Et justement, j'avais l'impression de faire tâche avec eux, parce que à ce moment-là, quand j'arrive à Toulon, mon palmarès était assez vierge. J'étais avec des champions du monde, des champions d'Europe, champions de France, certains avaient déjà tout gagné, donc
petit syndrome de l'imposteur,
voilà, exactement un peu ce syndrome là donc et au final je vais me servir de leur aura pour m'élever moi, pour bosser, être à l'écoute. J'étais le plus jeune aussi, et c'est ce qui m'a fait, je pense, évoluer et donner de la confiance, parce que derrière mon physique, j'étais pas quelqu'un qui avait énormément de confiance en moi. Du coup, de voir que des joueurs comme Johnny Wilkinson ou Matt Guiteau, Bakis Botta avaient une énorme confiance en moi, ça m'a libéré, en fait. Ça m'a libéré et du coup, ça m'a permis aussi de me révéler, de m'ouvrir, de savoir que j'avais peut-être un talent aussi de leader.
Oui.
Parce qu'après, par la suite, j'ai été capitaine. Voilà, c'est tout ça. En plus, je pense que c'est aussi cet apport de leur culture. La santé mentale, elle est traitée différemment dans les pays anglo-saxons. Mmh. Elle est vraiment...
Ça, tu l'as ressenti dans ton...
Ouais.
D'accord.
Parce que, par exemple, pour en parler avec Johnny, il a eu des périodes comme ça.
D'accord.
Matt Guiteau aussi, mais eux, ils n'étaient pas pointés du doigt dans leur pays, parce que c'est, on va dire, ça fait partie du chemin d'un sportif dans sa construction. Et ils ont aussi trouvé des choses pour se relever. Moi, ils me connaissaient, ils savaient que il fallait faire attention à moi. J'étais plus jeune qu'eux, et donc ils m'ont aussi donné des outils comme Myriam a pu me donner. Donc
t'as un ou deux outils là que t'as en tête que tu pourrais nous partager ou pas?
Non, mais c'est de se dire tout simplement, l'échec, c'est pas une fatalité, quoi. C'est un moyen d'apprendre. Des fois, ça m'arrivait de faire une sale journée d'entraînement. Je rentrais à la maison, fallait pas me parler, le lendemain, j'y repensais, donc je ressassais, donc j'enchaînais sur une deuxième journée compliquée. Et en fait, eux, c'est voilà, c'est-à-dire que tu arrives, tu donnes ton meilleur, ça se passe mal, demain tu reviens, tu feras encore mieux. Et tu repars de zéro.
Donc t'as un peu moins de pression, en fait, c'est ça. C'est voilà. Plus d'indulgence vis-à-vis de toi-même,
oui,
par rapport au résultat.
Exactement. Et surtout, je pense que c'est aussi le fait que j'étais moins dans la lumière à Toulon. C'est-à-dire qu'il y avait des joueurs qui attiraient beaucoup plus la lumière que moi.
Ouais.
Donc ça m'a permis de me construire, de me reconstruire, en utilisant un peu toute cette expérience que j'avais autour de moi. Et c'est souvent, c'est vrai que je le dis, ça m'a permis d'être... je suis passé à l'âge adulte à ce moment-là, d'être un nouvel homme. J'ai rencontré des personnes en qui je pouvais avoir confiance, qui me disaient les vérités, même si qui n'étaient pas forcément faciles à entendre, mais qui me disaient les vérités, que ce soit mes deux coachs, Bernard Laporte ou Pierre Mignoni, ils me disaient les vérités. C'est-à-dire que si j'étais pas bon, si j'étais pas sérieux, ils me le disaient à leur manière, qui pouvait être des fois assez, assez brutale, mais c'était dit. Et c'est là où j'ai aussi appris, c'est que une fois qu'ils te disent les choses, le lendemain, ils vont pas te regarder de travers, ils te le disent, maintenant, c'est dans ton camp. Donc, c'est ça aussi qui m'a fait grandir.
Et j'écoutais une de tes interviews et tu disais que tu considérais pas avoir suffisamment profité des bons moments. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et si oui, ce serait quoi tes conseils, tu vois, pour profiter davantage de la victoire ou d'un bon moment, quel qu'il soit finalement?
En fait, c'est vrai que quand je reviens un peu là sur toutes les victoires, toutes les grands matchs que j'ai pu vivre, j'ai des super souvenirs, mais quand je dis j'ai pas assez profité du moment, c'est-à-dire que vivre par exemple une semaine de finale de Coupe d'Europe ou la journée de la finale de Coupe d'Europe, c'est juste exceptionnel. Et en fait, moi, durant une période de ma carrière, je m'étais un peu enfermé dans certaines routines, des tocs. Par exemple, avant les matchs, fallait pas me parler, je répondais pas au téléphone, je parlais pas, j'envoyais pas de SMS, je restais vraiment focus, j'avais mon petit rituel, lire mon manga, écouter telle musique. Quand je suis sorti de ça, j'avais déjà la trentaine passée, c'est là que j'ai vraiment savouré on va dire mes années rugby dans le sens, enfin pleinement, oui. Pleinement. Voilà, vivre. Par exemple, à l'étranger ou même dans d'autres villes. Moi, je restais dans l'hôtel, je regardais des séries, je profitais pas en fait à fond. Oui. C'est vraiment vers la fin de ma carrière que j'ai pris le temps de visiter. Je suis peut-être allé, trois quatre fois en Afrique du Sud. J'ai jamais pris le temps de visiter.
Oui.
Alors que c'est un pays juste fabuleux. Pareil, l'Irlande, le Pays de Galles, l'Écosse, c'est des pays où j'ai eu l'habitude d'y aller, l'Italie aussi, mais j'ai jamais visité. Et en fait, je me suis rendu compte de ça, il y a un problème, quoi. C'est pas normal. Profite un peu, c'est pas parce que tu visites ou tu t'accordes un peu de bon temps que tu n'es pas concerné par le match. Et ça, je l'ai beaucoup appris avec les joueurs anglo-saxons à Toulon. C'est-à-dire que on dit souvent ils font on-off.
Ouais,
c'est-à-dire que avant le match, ils rigolent, ils sont vachement détendus. Par contre, une fois que le match va commencer, c'est en mode Terminator. Ouais. Et une fois que le match est terminé, gagné, perdu, ils reprennent la vie normalement. Et c'est vrai que moi, avant le match, après le match, je bouffais énormément d'énergie à... Par faire le match avant, comme on dit, on fait le match dans la tête avant de l'avoir fait. Après le match,
on refait.
et c'est en ça que je disais que j'ai pas vraiment profité, en fait.
Ouais, ça laisse plus beaucoup de place au plaisir, en fait.
Ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est clair. Je pense que, honnêtement, j'ai arrêté de prendre du plaisir, je pense, quand j'ai commencé, quand je suis passé pro.
D'accord.
Parce que c'était un travail et parce que y a tellement d'enjeux. En fait, tu te rends compte qu'il y a tellement d'enjeux. Que maintenant il y a des enjeux financiers et c'est plus le rugby avec les copains.
Ouais.
Y a, bien sûr, tu as des copains dans ton équipe, mais c'est le travail, quoi. C'est la vie active, donc il y a des coups bas, il y a de la concurrence, tu sais jamais vraiment sur qui tu peux compter, à qui te fier. Donc c'est pas facile, en fait. C'est pas facile parce que tu deviens un peu parano. Tu deviens un peu parano parce que tu sais jamais vraiment si quelqu'un veut ton bien ou pas.
D'accord. Voilà,
c'est quand un coéquipier qui joue au même poste que toi te dit tiens, viens, on va boire un verre. Tu dis, est-ce qu'il veut boire un verre avec moi ou est-ce qu'il veut boire un verre pour justement, parce qu'il sait que j'aime boire des verres, pour pouvoir après aller dire à l'entraîneur hier, parce que c'est déjà arrivé.
D'accord.
Donc deviens un peu parano.
Ouais, ça le bon ambiance qui s'arrête un peu, quoi.
Ouais, voilà.
Alors, on se rapproche de la fin de cet épisode. On fait un petit jeu, un peu du tac au tac, où je commence une phrase et je te laisse la terminer.
Ah, d'accord. Ça va.
Alors, quand j'ai du mal à me lever le matin,
Je pense à mes enfants.
Ce qui me donne de l'énergie au quotidien, c'est...
Mes enfants.
Ce qui me prend de l'énergie au quotidien, c'est...
Mes enfants.
Je la sentais venir. Le moment où j'ai le plus douté, c'est...
Après mes deux grosses blessures.
Ok, avec les ligaments.
Ouais, avec les tendons, quand j'ai pété les deux tendons, c'est là où vraiment C'est vraiment. J'ai dit là, j'arrête tout. Parce que j'étais handicapé. C'est-à-dire que je pouvais pas marcher, j'étais en chaise roulante. Là, je me suis dit, bon, un genou, ça va, mais les deux genoux en même temps, il va falloir se relever. Donc, ouais, c'est vraiment là où j'ai vraiment, vraiment douté. Ouais.
Quand je ne me sens pas bien, les mots qui me réconfortent sont
À table. Non, je.
Ah, écoute, c'est ce qui t'est venu à l'esprit. pour moi, un mental de champion, c'est
un mental de champion, Michael Jordan.
Ok. Et si j'avais un secret du mental à partager, ce serait
Secret du mental. Il faut être vrai dans toutes circonstances. Quand je dis être vrai, c'est assumer ses défauts, ses faiblesses, être conscient de ses forces et de savoir vivre avec et de vraiment voilà, les assumer. Ne pas, c'est vrai que quand on est sportif professionnel et un peu exposé, on a souvent tendance à mettre un masque. Ouais. Et à vouloir être ce qu'on attend de nous. Une fois, en fait, en tout cas moi, que j'ai enlevé ce masque-là, eh ben, ça a été beaucoup plus facile dans ma vie. T'es obligé de rien. Ouais. Par exemple, si j'avais pas envie de parler à telle ou telle personne, je le faisais pas. Et peu importe ce que la personne ou les personnes pouvaient penser de moi, l'important, c'était d'être bien dans mes baskets et d'être bien dans ma tête. D'être un peu égoïste, voilà.
Ok. Et le dernier, si je devais écrire mon autobiographie, le titre serait ?
Ah, ouais, mais j'en ai déjà fait une. Renaissance.
Renaissance. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ?
Je sais pas, non. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la blessure.
On n'a pas parlé de la blessure.
On n'a pas parlé de la blessure qui peut engendrer aussi une certaine forme de dépression. Là, pareil, en fait, c'était particulier parce que, bon, après, je crois que je fais deux matchs et je me reblesse. Donc, j'ai les deux tendons qui lâchent. Et là, en fait, j'ai même pas pris la décision qu'on avait déjà pris la décision à ma place. Et je pense que comme j'ai un peu cette nature un peu rebelle, c'est ce qui a fait aussi que j'ai voulu revenir. C'est-à-dire que je me souviens d'un papier qui disait le joueur retraité Mathieu Bastaro, alors que ça faisait deux mois que je m'étais blessé. Je dis, ah bon, ok, je suis retraité. Ouais, ouais. Et une fois, deux fois, je m'en souviens à une interview. Et après, vous allez faire quoi? Après, pour l'instant, je suis blessé, j'ai pas dit que j'allais arrêter. Donc, du coup, ça m'a donné un peu de force de me dire, encore une fois, je vais leur montrer que je peux le faire. Ouais. Et après, j'ai essayé de puiser la force dans tous les proches qu'il y avait autour de moi. J'ai vraiment fait le tri. J'ai gardé très peu de... Les personnes qui me disaient pas « mais si, ça va aller juste pour me faire plaisir ». Les personnes qui ont vraiment cru en moi. Et je me suis nourri de ça pendant ma convalescence. Et c'est ce qui m'a rendu le plus fier, en fait. Durant ma carrière, je pense que c'est ce qui m'a rendu le plus fier au-delà de mes titres. C'est de revenir de là où on m'avait mis, quoi. On m'avait souvent enterré. Et le fait de toujours revenir, c'est ce qui m'a rendu plus fier dans ma carrière. Ouais.
Bravo pour ces remontada dans le bon sens.
Ouais, voilà, ouais, pour une fois, ouais.
Dernière question. Quel athlète t'aimerais voir intervenir dans ce podcast ?
Un athlète. Joe Wilfried Tsonga.
Ok.
J'ai eu l'honneur de parler avec lui parce qu'on a le même équipementier et on s'était vu à une réunion des sportifs et on avait fait le trajet ensemble à pied parce qu'on était au même hôtel. Donc on a discuté pendant 20-25 minutes et justement on avait parlé de santé mentale. Je me souviens très bien, on avait parlé de santé mentale pendant 20-25 minutes et il y avait Manon Houette aussi.
Okay.
Handballeuse. Et on avait discuté et on était resté en bas de l'hôtel, on avait discuté encore et on avait parlé de nos différentes expériences et on s'était retrouvé sur des points, sur par exemple la relation qu'on pouvait avoir avec les médias.
Ouais.
Où quand tu vas pas dans leur sens, de suite, entre guillemets, t'en paies les conséquences. Quand on te fait passer pour le mec un peu arrogant, hautain. Donc, ouais, je vois bien Joe Wilfried, ouais.
Génial, bah écoute, on va essayer de le contacter alors. Merci Mathieu.
Bah de rien, c'était un très bon moment, merci de m'avoir invité.
Bah, merci à toi, c'est vraiment hyper, hyper inspirant et hyper utile. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, vous pouvez le partager, vous abonner et même nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est grâce à ce petit geste que vous nous aidez à faire grandir ce podcast et à convaincre les plus grands athlètes de venir témoigner. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Mocha.care peut aider votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la description. Ensemble, on peut faire bouger les lignes et déstigmatiser la santé mentale. Merci encore et à bientôt.